Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et dorénavant, Pulps est aussi ouvert le lundi. Bonjour à tous et bienvenue sur le 184e Comics Weekly. Ce soir, nous allons parler des comics VO sortis cette semaine avec notamment Marvel et la nouvelle version de Fantastic Four, version James Robinson. Nous parlerons aussi de Guardians of the Galaxy, de la fin de Cataclysm ou encore de Uncanny Avengers. Chez DC, Batman, Superman et World's Finest qui sont en crossover, la suite d'Aquaman ou encore le one-shot Lois Lane, et enfin la partie indé avec le grand retour de The Wake, la nouvelle série Tomb Raider, la suite de X-Files Conspiracy ou Revenge, un comics qui va faire parler. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces nouveautés, Miss... Ah non, il est pas là, quel con. Putain, le mec est en mode automatique tellement fort. Putain, c'est abusé. Avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces nouveautés, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Et Marty.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
Nous allons démarrer avec du Marvel, avec la grosse sortie chez Marvel de la semaine. C'est la sortie du Fantastic Four numéro 1. Nouveau run des 4 Fantastiques avec James Robinson au scénario et Leonard Kirk au dessin. Un ancrage de Carl Kesel. Alors, Fantastic Four avec presque un K écrit sur la cover. Quand on regarde, oui. Ça donne cette impression d'être un K, mais bien.
Et le 4 qui sert de A, en fait.
Ouais. Un logo stylisé, déjà. Ouais, alors, ouais. Est-ce que l'intérieur le sera ? Eh bien, oui. Réponse tout de suite, oui. C'est une très bonne reprise en main du titre, je trouve, par James Robinson. On démarre avec Sue qui écrit une lettre à Valeria. Valeria qui est restée en Latverie à la suite du run de Matt Fraction, la précédente série qui s'est arrêtée il y a un petit mois, même pas. Eh bien, Sue lui raconte un petit peu ce qui s'est passé et nous en dévoile sur le futur de la série. Grosso modo, c'est le schéma classique. On nous raconte un petit peu ce qui s'est passé et puis on revient dans le temps, sauf que c'est fait de manière différente. Déjà, ça évite le classicisme de 48 heures plus tôt. C'est le truc dont j'ai vraiment plus envie de voir. On voit que Reed Richards est... Et dans la merde, que Ben est arrêté, que Johnny est dans un bar entouré de tout un tas de groupies et bien loin des 4 Fantastiques. Et enfin, Sue chiale. Que s'est-il passé? Mais on va le découvrir, on va en tout cas commencer à découvrir un petit peu les prémices de tout ça, avec un démarrage sur un énorme combat contre Fig Fang Foom qui ravage Manhattan.
Ouais.
Un Fig Fang Foom, mais alors d'une majestuosité implacable.
Ouais. Mais ce que j'ai bien aimé sur à ce moment-là, c'est que Robinson fait quand même une petite mention dans une bulle que Fig Fang Foom, depuis quelques années, change de personnalité, en évoquant même le fameux one-shot où il est devenu cuisinier dans un resto asiatique, il me semble, si je dis pas de bêtises. où Robinson évoque aussi l'âge des monstres, c'est donc ces années 50, début 60, où il y avait beaucoup de comics de monstres dans que Marvel, à l'époque c'était Timeless, si je dis pas de bêtises, ou Atlas, pardon, publiait. Et qui depuis dans la continuité est devenu les années 50-60, et on retrouve là le Robinson amoureux de continuité qu'on connaît.
Complètement. Il a dans ce premier numéro, on voit qu'il reprend toutes les époques et toutes les intrigues un peu laissées en suspens par-ci par-là, ouais, pour combiner tout ça pour faire le démarrage de son run.
Ouais, bah oui, parce que il continue totalement l'histoire de Fraction avec Valeria, mais aussi des apports même, par exemple de Mark Millar. Alors ne criez pas, c'est juste que il reprend l'idée que Johnny Storm a un appresario et une carrière de rockstar.
Exactement. Donc il va rechercher des petits trucs comme ça qui avaient été laissés en suspens pour les mélanger avec ce qu'il a envie de faire. Ben va retrouver Alicia Masters. Alors comment les choses vont se passer entre tous les deux, eh bien à vous de le découvrir à la lecture de ce comic, mais voilà, il va retourner la voir, donc on n'a pas oublié ce personnage vraiment classique des 4 Fantastic Four, hein, tout simplement. Il n'a pas oublié non plus la Future Foundation qui fait une apparition.
Ouais, qui fait une apparition et qui sera sans doute dans l'entourage de l'équipe, j'ai l'impression.
Voilà, il y a seule chose qu'il n'a pas expliqué, c'est ses nouveaux costumes.
Oui.
Ouais.
Mais
Ouais,
bon.
je crois que ça nous, on s'est tous dit, bon, ce serait bien une petite case, juste où il le mentionne.
Ouais, mais, ou alors je suis vraiment passé à côté, mais je suis pas le seul apparemment.
Ouais, je sais pas. Ah, bah, j'ai pas lu le dernier numéro de Fantastic Four ni de FF, donc peut-être qu'il y avait genre la dernière case de ces numéros-là qui présentait ça. Mais
Ouais, ça aurait été
effectivement,
bien
oui.
de le mentionner quand même.
Ouais, ça aurait été bien de le mentionner. Après, ouais, je suis d'accord avec toi, Steve. C'est vrai que le fait de voir un petit peu tout le cast classique des Fantastic Four dans ce premier numéro, ça permet vraiment de bien planter l'action. Et voilà, et puis ça se termine dans un bang.
Oui, et puis sans rien spoiler, si vous regardez juste les couvertures des prochains numéros, ce qui a été fait récemment n'est absolument pas jeté aux orties.
Non, non, là c'est véritablement un bon début. Il y a aussi un nouvel éditeur hein, sur le titre, on en avait parlé dans les Weekly News. C'est Mark Panicchia qui arrive sur le titre en tant qu'éditeur, après Tom Brevoort qui restait dessus pendant 14 ans. Alors vraiment, nouvelle direction, nouveau départ complet pour ces quatre fantastiques. C'est assez intéressant. Johnny Storm, justement, on parlait de sa carrière de rockstar, et eh bien, on comprend déjà un petit peu les ennuis qu'on a pu voir, qui vont lui arriver en tout cas dans les sollicitations. Si vous avez suivi les sollicitations du mois de mai notamment, on sait qu'il va avoir quelques ennuis. On peut déjà deviner un peu pourquoi avec ce que l'on voit dans ce comic-là. Non, franchement, ça a l'air de tenir la route, en tout cas pour ce premier épisode. Ça donne envie d'aller voir la suite. On sent qu'il sait où il va. Enfin, en tout cas, il donne cette impression-là à la lecture du premier numéro. Non,
Oui, mais
moi, je me suis pas
le seul
éclaté comme
truc.
ça depuis un bon moment sur les quatre fantastiques, quoi. Les vrais, je veux dire, les.
Tu vois, j'irais pas dire que je me suis éclaté parce que ça pose bien les bases, mais j'étais pas non plus captivé. Après, je pense le problème, c'est que, comme tu le disais, surtout toi, lors des premiers numéros de Marvel Now qui étaient lancés, c'est qu'un numéro 40, de 48 pages, ce serait pas du luxe pour ce genre de choses.
Ben oui. Eh oui, un numéro double pour lancer une série, si pendant très longtemps on l'a fait, c'était pas pour rien. Je pense que 22 pages pour lancer un arc, c'est un peu court.
Ouais, parce que
Enfin,
là,
surtout pour
finalement,
lancer un
mine de
run, en
rien.
fait. C'est surtout ça.
Oui, voilà, parce que mine de rien, on nous y place ses pions, mais l'intrigue en elle-même n'a pas vraiment commencé.
Ah,
Non, mais bon, il y
l'avantage,
a.
c'est qu'on est dans la version All New Marvel Now, donc dans 2 semaines, on aura la suite.
Oui. Puis il y a quand même un cliff quand même que je trouve efficace, moi, personnellement, ça.
Oui, là, il y a
Oui,
un cliff au
tout à
moins.
fait, oui.
Ça change de certaines séries dont on a parlé les semaines précédentes. Il y a un cliff, un vrai.
Oui, et puis on peut lancer des spéculations, comme par exemple Ben. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller là où il va dans le futur? Rien nous le dit, rien nous dit clairement ce qu'il a fait, mais on peut déjà spéculer.
Non, franchement, bonne prise en main du titre. Alors, j'ai envie de dire quand même, même si c'est accessible aux nouveaux lecteurs, il vaut mieux connaître un tout petit peu l'univers des quatre fantastiques pour encore plus apprécier, mais c'est totalement prenable par quiconque n'en a jamais lu, quoi.
Oui, voilà, c'est surtout pour tout ce quelqu'un qui est arrêté depuis 10 ans, comprendra pas trop qui sont tous ces gamins et les quelques petites mentions au run précédent, mais oui, si on s'accroche un peu, on peut facilement rentrer
On peut
dedans.
passer outre assez facilement, honnêtement.
Oui,
Voilà,
voilà,
on
oui.
comprend l'histoire relativement facilement. C'est vraiment juste un plus de connaître les quatre fantastiques, enfin en tout cas ce qui s'est passé un petit peu avant, quoi.
Oui, les informations sont bien dosées.
Et le gros point positif, c'est aussi Leonard Kerr qui est quand même vraiment très bon sur le titre.
Ah
Ça
oui,
fait
ouais.
plaisir.
Ah oui, c'est franchement visuellement c'est très propre.
Ouais. C'est le genre de dessin qu'il faut aux quatre fantastiques, je pense.
Un...
J'ai envie de dire, c'est les dessins familiaux, entre guillemets. Enfin,
C'est
c'est le ton qu'il faut
du
donner à la
Bagley
série.
réussi.
Oh, t'es
Ouais,
salaud, toi,
c'est
avec
du Bagley,
Bagley.
pas Bagley.
Oh, comment t'es
Oh, ben,
salaud avec Bagley. Oh.
j'en
C'était
parlais tout
avant
à
qu'il
l'heure et
devienne Marc Bagley.
il m'a un peu fâché cette semaine, faut dire. Okay.
Mais je crois que Marc Bagley, on lui donne tellement plus de projets qui l'intéressent que voilà, il fait le boulot, mais en mode automatique, quoi.
Ah, c'est
Alors qu'il
dommage.
fut un temps où il était capable de rendre 2 bons comics en un mois.
Il était un temps où Mark Bagley était sur Amazing Spider-Man et c'était quand même le plus beau dessinateur de tous les titres Spider-Man de l'époque, quoi. Mais enfin bon, c'était un autre temps.
Une autre série.
Aussi, ouais. En tout cas, je crois qu'on est unanime pour ce 4 Fantastique, enfin ce Fantastic Four numéro 1. C'est un bail.
Bah oui.
Oui.
Un bail, ça commence mieux que la semaine dernière, dis donc.
Bon,
Mais je crois
oui.
que cette semaine va être meilleure que la semaine dernière. En tout cas, pour ma part, je n'ai rien à jeter cette semaine. Donc,
Bon, bah, ça va,
Oh,
c'est
quel
cool.
en même temps, j'ai peu lu. C'est peut-être pour ça.
Et pour donner envie aux gens, si notre review à l'instant vous a pas donné envie de lire le numéro, sachez que dedans vous retrouverez un rayon de la mort au chocolat.
Oui, et ça, c'est quand même l'invention ultime. Comment tuer avec du chocolat? Découvrez-le dans 4 Fantastiques numéro 1. La suite du programme, c'est le Guardians of the Galaxy numéro 12, toujours dans ce crossover Trial of Jean Grey. Marty, tu nous en parles.
Oui, alors je vous laisse deviner qui est au scénario, Brian Michael Bendis. Au dessin, alors il y a Sarah Pichelli et Stuart Immonen qui se sont partagés la tâche. Et pour l'ancrage, également Sarah Pichelli, j'imagine qu'elle s'ancre elle-même, et Wade von Graubadger. Et aux couleurs, à nouveau Justin Ponsor. Bon, alors pour la partie graphique, comme toujours, c'est nickel, c'est vraiment du grand luxe. Et pour le scénario, alors, rappelez-vous, il y a deux semaines, il y avait eu la dernière partie sortie de ce crossover était dans All New X-Men, et c'était pas terrible. Bendis, on aurait dit qu'il s'auto-parodiait même dans son style, des bulles répétitives où il se passe rien. Et ben, miracle, ce mois-ci, ça va mieux. Franchement, j'ai été surpris, je m'attendais de nouveau à lire un truc où les personnages salut, ça va, bof, pourquoi ? Finalement, ça va mieux.
J'en viens à la conclusion que ce monsieur est bipolaire, c'est le fait d'avoir deux prénoms, je pense qu'il doit y avoir les jours où il y a Brian qui écrit et les autres jours où il y a Michael. Alors lequel écrit mal ?
Oui, voilà. Voilà, il y en a un qui est bien et l'autre qui est méchant. Oh, oh. Bon, j'ai quand même une petite frayeur, parce que ça ouvre quand même les deux premières pages sur un flashback, le énième flashback de Havok et Cyclope petits dans l'avion qui se font éjecter par leurs parents. Mais après ça, franchement, l'épisode se rattrape. C'est pas extraordinaire, mais ça avance plus que d'habitude, je trouve. Ça va mieux, mais j'ai quand même peur pour la suite. Parce que avec Bendis, voilà, il y a des fois où on pense qu'il reprend du poil de la bête pour finalement retomber dans ses travers encore plus l'épisode suivant.
Ouais, ses travers de porc. Oh. C'était facile.
Bah, la preuve, il cochonne ses scénarios.
C'est le mec qui bosse en charcuterie qui dit ça, quoi. C'est terrible. J'ai honte.
Tu peux. Bah moi du coup, par contre, j'ai pas eu honte pour une fois de lire du Bendis comme les 2-3 derniers mois où vraiment c'était laborieux tellement il se passait rien. Bah pour vous dire la preuve, cette semaine pour une fois, ce n'est pas le titre que j'ai lu le plus rapidement. J'ai passé plus de 5 minutes sur un titre de Bendis et ça c'est assez rare en ce moment pour être noté.
Ah, est-ce que Bruno aura fait de même tout à l'heure et nous en dira la même chose ?
Oui.
Par contre, il y a une petite question que je me pose, c'est est-ce que dans les années 90 et 2000, les Chaillards voulaient à ce point également choper Jean Grey ou ils s'en foutaient à l'époque ?
Dans les années 90 et 2000 ?
Oui.
Oh, bah, dans les années 70, oui, au moment de la fin du Phénix Noir, oui. Oui. Mais dans les années 90-2000, non.
Oui, bah c'est bien ce qui me semblait, parce que là, c'est quand même étonnant cette envie qu'ils ont d'à tout prix juger cette Jean Grey, alors que... En plus, ils le savent eux-mêmes qu'elle vient du passé. Alors bon, j'espère que, si ça se trouve, peut-être que Bendis nous prépare un petit scénario du genre « Gladiator fait ça pour affirmer son pouvoir » ou quelque chose du genre. Mais bon, j'ai très peu d'espoir qu'on se dirige vers ça. Enfin bon, ah oui, il y a un autre petit truc qui me chiffonne un peu, c'est la façon dont il immunise Laura, alias X-23. C'est bien de l'immuniser, surtout la façon qui est utilisée ici est assez ironique. Mais ça, c'est un peu fait trop artificiellement, je trouve. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, pour moi, bon, c'est un honnête check-it cette semaine. À défaut d'être un bail, vu que les précédentes parties étaient pas top, et que rien ne nous dit que la suite sera de bonne facture.
Très bien, on continue avec Bruno qui va nous parler de Secret Avengers numéro 16, le dernier épisode de cette série qui sera relancé dans une semaine, je crois, ou dans deux semaines.
À peu près. Donc c'est écrit par Nick Spencer et Alex Scott, donc Alex Scott qui est le futur scénariste de Secret Avengers, avec Luke Ross au dessin, et c'est la fin de ce petit arc qui s'appelle How to Maim a Mockingbird, et qui est donc centré sur le personnage de Mockingbird, qui s'est retrouvé...
Attention, la vanne hein, quand même, la vanne.
Oui, non, c'était pas mal fait.
Voilà, double vanne même, j'imagine.
Ah oui, parce que Maim, c'est M-A.I.M, tu vois.
Et voilà, exactement. Ouais. Donc c'était bien trouvé. Donc c'est sûr, elle est sur l'île de Liam. Elle a été capturée par le scientiste suprême, le docteur Andrew Forson. Et en fait, on a découvert dans deux numéros précédemment que elle-même était un agent en fait de Liam. Sauf qu'elle l'avait oublié. Tout comme les héros étaient programmés par le Shield pour faire certaines missions, elle en fait, elle avait été programmée par Liam pour intégrer le Shield. Et du coup, c'est elle qui a tiré d'une balle dans la tête ce pauvre Taskmaster. Sauf qu'en fait, dans sa tête, il y a plusieurs... ça va pas, quoi. Elle a son côté gentil et qui essaye de prendre un peu le dessus. Et donc là, on a droit à un récit vraiment efficace d'espionnage, avec ensuite en parallèle les manigances de MODOK avec le Shield, et la façon dont Mockingbird va... peut-être ou pas s'en sortir sur l'île de la IEM. J'ai bien aimé cet arc. C'était vraiment, on ressentait ce petit côté espionnage fun avec des dialogues parfois bien bien ciselés. Beaucoup d'action. Là, on a droit à une bonne baston entre Mockingbird et Andrew Forson qui est vraiment bien mise en scène. Les dessins de Lucross sont très efficaces. Et ça se termine sur une petite note douce-amère que j'ai bien appréciée. Et du coup, je suis curieux de voir ce que va faire Alex Scott après avec le nouveau statut des Secret Avengers, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent à la fin. Et ça méritait pas pour autant une numérotation au numéro 1, parce que voilà, c'est encore un petit peu dommage. Mais bonne surprise, et en prenant cette série dans la globalité, je trouve que cet arc de Secret, ça, ces 16 numéros de Secret Avengers valaient vraiment le coup, et pour moi, c'est un bail.
Continuons avec ton coup de cœur de la semaine, Marty, c'est la sortie du 17e épisode de Uncanny Avengers.
Ouais, tout à fait, Uncanny Avengers, qui reste une série assez spectaculaire de mois en mois, toujours écrite par Rick Remender, et avec en ce moment Steve McNiven au dessin, assisté de Jay Layston à l'ancrage, et une colorisation, alors là c'est un festival, il y a Laura Martin, Justin Ponsor, encore lui, Matt Millar, pas confondre avec Marc Millar, et Lars Molinar. Donc, bon, on est toujours dans cet arc énorme, à la fois par sa longueur et ses répercussions et tout ce qui s'y passe, où on retrouve quand même tous les héros Marvel, dont même des vilains comme Docteur Doom réunis pour contrer la menace qui menace la Terre, désolé de la répétition.
Alors bon, on pourrait se dire... Oh, c'est moche, c'est laid, oh, la répétition, bah, pas bien. Oui, voilà, j'avais envie d'intervenir, c'est tout.
Bah, la menace, c'est quand même un gros céleste. Hein.
Oui, enfin, je suis sûr, juste pour revenir sur ma répétition, je suis sûr que Bendis, lui, ça ne le choque pas du tout, ce genre de répétition.
C'était juste histoire de parler, en fait. C'est tout.
Oui, donc, on a même Doom dans l'équipe pour vous dire à quel point c'est cataclysmique ce qui arrive. Et donc, alors là, encore une fois, c'est une série, c'est dur d'en parler tellement on a peur de spoiler ce qui s'y passe, mais j'ai juste envie de dire que allez voir, c'est génial, bah oui. C'est ça tranche, ça flingue. J'ai aussi envie de dire Captain America fuck yeah.
Ouais,
je pense que Bruno sera du même avec moi.
Ah oui, non, c'est hyper efficace, on en prend plein les yeux, les dessins de McNiven sont vraiment très efficaces. C'est très what the fuck, on est à la limite du Dragon Ball Z à la fin. Mais tout en ayant quand même la subtilité d'un scénario qui est quand même assez bien ficelé. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu hors antenne avec Marty, c'est ce qu'aurait pu être un Age of Ultron, si ça avait été vraiment bien fait. Et bah voilà, là on a notre gros event, un petit peu entre guillemets hors continuité, mais qui, on l'espère, va rattraper quand même la continuité par la suite dans sa finalité. Mais où on en prend plein les yeux, et voilà, on dévore le comics... Voilà, c'est très très bien.
Enfin, ah oui, pour donc moi, c'est à ce point-là. ça vous la coupe tellement c'est bon.
Quoi. Ah, c'est carrément. Non, c'est vraiment très très
oui,
bien.
Oui, bon, c'est pas non plus la chose la plus incroyable. Si vous le lisez, ce sera sans doute pas la chose la plus incroyable que vous ayez lu de votre vie. Mais actuellement, c'est ce qui se fait le mieux chez Marvel, je pense.
Non.
Ça.
Non, je ne suis pas d'accord.
Pour moi, donc.
Je ne suis pas d'accord.
C'est vrai.
Non, non. On a des séries très très bien chez Marvel, comme Avengers Assemble, par exemple.
Où il y a tout autant de personnages d'ailleurs.
Qui remontent un peu le niveau actuellement, quand même.
Qui sont tellement bonnes qu'elles s'arrêtent, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Quand on a la bonne idée d'appeler Warren Ellis pour rehausser les ventes, mais qu'en même temps on décide de l'annulation, bon, lien de cause à effet.
Après, on a des titres majeurs, hein, type New Warriors, Nova. Oh, attention, ça trash. Oui.
Et puis Uncanny Avengers 17, c'est gros comme nombre.
Ça commence à être gros chez Marvel.
Ouais, Fantastic Four, merde, on a atteint le 16, vite, on relance.
Et ouais, on a le plus gros chiffre actuellement étant Wolverine et X-Men qui atteint son numéro 42.
Ouais, qui s'arrête
jusqu'au mois. Ouais, jusqu'au mois prochain.
Krusty Bat qui peut te battre.
Ben, c'est Uncanny Avengers qui devient finalement le plus gros numéro, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Non, il y a Spider-Man.
Non, il y a Spider-Man.
Ah oui.
Qui s'arrête dans 2 mois.
attention, 30, on va dépasser les 32.
Ah bah, Spider-Man, il triche, il sort 2 fois par mois.
Numéro 30, attends, non, vite. Relaunchon.
Donc, pour moi, comme tu l'as dit, Steve, c'est mon coup de cœur et c'est bah, logiquement un bail, même un ultra bail, même.
Moi,
jetez-vous dessus.
Un très gros bail aussi, allez-y.
Bruno, tu vas nous parler de ce crossover que sur lequel on est tous devenus complètement fous. On attend de savoir que va donner cette dernière partie. Cet événement majeur de cette nouvelle décennie, c'est le tournant de 2010 à 2020. Cataclysm Ultimate Last Stand numéro 5 est sorti, le dernier épisode. Que va devenir l'univers Ultimate? Question qui me brûle les lèvres.
Ouais, il fallait vraiment pas passer à côté, hein. C'est écrit par Brian Michael Bendis avec des dessins de Mark Bagley. Alors,
après une intro comme ça, quand même, je t'ai tellement bien lancé que là, t'as intérêt à faire un truc du feu de Dieu.
Alors, j'ai lu en 3 minutes celui-là, donc j'ai mis moins de 5 minutes pour le lire.
ça commence.
Et les dessins sont dégueulasses. Alors,
allez, dis donc, Mark Bagley, attention.
La cataclysme, donc c'est la fin de l'univers Ultimate, c'est Galactus qui attaque la Terre, et là, en fait, on a un petit peu la résolution, comment les Ultimates vont s'en sortir, qui sont les personnages qui vont vivre, est-ce que tout le monde va mourir, est-ce que l'univers Ultimate va s'arrêter? On sait que non, puisqu'il va y avoir un relaunch avec de nouveaux titres. Là, on va voir comment ils essayent de botter le cul à Galactus, et c'est hyper poussif, c'est hyper mal fait, c'est débile. J'étais hyper déçu. Franchement, je ne te félicite pas, Brian Michael Bendis, pour cette fin d'arc. Cette fin d'event, c'est déplorable. Heureusement qu'il y a la partie qui était écrite par Joshua Elfialkov, qui est pas mal, qui concerne les Ultimates, mais sinon tout le reste est un petit peu moyen. Cette conclusion, par contre, elle est vraiment très mauvaise. Alors bien sûr, moi je suis content parce qu'ils repartent sur des bases fraîches. Ce qui a été annoncé pour le reboot, le relaunch. Ça m'intéresse. On part sur vraiment de nouvelles bases, mais en attendant, je trouve qu'ils ont terminé d'une façon vraiment pas correcte pour le fan et hyper hyper déçu. Donc pour moi, c'est un impasse.
Heureusement qu'on a Inhumanity qui arrive.
C'est un impasse parce que j'ai pas du tout aimé comment ça s'est conclu et je trouve les personnages étaient out of character. C'est hyper décevant.
Et ce qui est annoncé pour la suite?
Alors, il est annoncé d'abord un one-shot qui va s'appeler Survive, qui sort au mois de mars.
Survive ! C'est tellement bon comme titre, ça donne envie d'y aller, quoi.
C'est au mois de mars et qui va nous montrer un petit peu quel est l'état, en fait, de l'univers Ultimate. Et après, au mois d'avril, on aura l'arrivée des premiers titres qui sont All New Ultimates, All New FF,
sans déconner, Ultimate FF. All New Ultimates.
Ouais. Non, mais sérieux, les Ultimate FF, et puis au mois de mai, il y aura Miles Morales, Ultimate Spider-Man numéro 1. Donc il y aura 3 titres mensuels.
J'attends de savoir quelle sera la prochaine vague de titres Marvel. Comment ils vont l'appeler? Parce qu'on a eu le Marvel Now, on a le All New Marvel Now. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant?
Spectacular All New Marvel Night.
J'attends le New All New.
Ou le Newer.
Mais non, le All Different All New Marvel Now.
Oh putain, ouais.
Avec la série All Different X-Men.
Le Next Marvel. Le Next Marvel.
Marvel Next. Next, ça a déjà été fait, hein, je crois.
Ah bah voilà. Ouais.
Bah oui, j'en suis sûr même. Et puis ça serait peut-être un peu. Ça serait peut-être un peu tirer une balle dans le pied, puisqu'ils ont quand même leur grosse conférence de presse qu'ils font assez régulièrement qui s'appelle le Marvel Next Big Thing.
En plus, ouais.
Et je pense que ce serait peut-être assez confondant pour les gens.
Mais il y avait le one-shot, la Marvel Now What, qui était pas mal pour ça. Pour se foutre de la gueule de leur dénomination. Mais ouais, non.
Voilà. Ils devront en refaire un, peut-être.
En tout cas, très mauvaise conclusion pour cet event. Je suis très déçu.
J'ai l'impression que c'est surtout un très mauvais event, moi, perso, mais bon.
Il y avait les deux premiers numéros étaient pas mal et la suite était pourrie.
Entre Hunger et ça, c'est bien, vous avez claqué votre fric.
Oh oui.
Non, mais que le lecteur qui aime les events se rassure, il y a Inhumanity qui arrive.
Inhumanity, non, mais c'est pas un event, c'est une série.
Oui, non, mais niveau pseudo-event pourri, on a ça aussi.
Ouais, Inhumanity, il est mort dans l'œuf, ouais, ça c'est clair.
Avant même d'être un œuf. Il est déjà mort dans la poule, disait.
Il est mort dans le cocon.
Qui, de l'œuf ou la poule? Rien, une masse gélatineuse informe.
Ah, attends, c'est la poule qui a pondu un œuf qui était déjà mort, quoi. C'est horrible. Peut-être même que la poule était déjà morte en elle-même. C'est peut-être une poule zombie qui a pondu un œuf zombie, en fait.
Une poule morte vivante, peut-être.
Et justement, voilà, tu vois la transition que j'étais en train d'amener.
Ouais, c'est
puisque
bien,
c'est
bien.
Notre dernier titre Marvel cette semaine, c'est Marty qui nous en parle. C'est la suite d'Empire of the Dead, deuxième épisode.
Oui, Empire of the Dead, où le titre entier, c'est même George Romero's Empire of the Dead, puisque le maître des zombies est à l'écriture de ce titre, qui est dessiné, pour pas dire sublimé, par Alex Maliv. Je sais jamais si je le dis correctement ou pas. Donc, c'est la suite. Rappelez-vous donc, vous avez eu une chronique qui était assez, il me semble qu'elle était assez élogieuse, la chronique oui. du premier numéro.
Tout à fait.
Et ici, je dois dire que j'ai rattrapé la série du coup pour cette semaine. Vous m'aviez donné envie d'aller lire. Et bon, le deuxième numéro, je l'ai trouvé moins bon. Enfin, je pense que le deuxième numéro se savourera davantage dans la version reliée. C'est la suite directe de ce qui s'est passé la dernière fois. On retrouve notamment dans les premières pages cette mystérieuse agent du SWAT qui est portée disparue et qui semble être devenue zombifiée, dont on entend les pensées. Mmh. Et Romero, en fait, continue ce qu'il avait introduit dans le premier numéro, qui reprenait des choses qu'il avait déjà fait dans ses films, notamment dans Day of the Dead, le fait que peut-être les zombies ont toujours une forme d'intelligence ou peuvent redévelopper une forme d'intelligence. De ce côté-là, il n'en fait pas trop tout de suite, il met ça progressivement en place. Et à côté, on en voit un peu plus sur les fameux vampires qui peuplent également l'univers à partir de cette mini-série. Donc voilà, le scénario, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ça m'a moins marqué que le premier numéro, mais ça reste bon.
C'est la transition un peu, c'est ça? Enfin...
Oui, voilà, ouais, c'est un peu une transition. Par contre, ce qui est indéniablement très bon, ce sont les dessins d'Alex Maliv qui sont juste sublimes, c'est magnifique. Rien que pour ça, ça mérite de lire ce numéro. Enfin, pour moi, ce sera bon entre le check-it et le bye. Je vais vraiment, enfin, pour vous dire, je l'ai lu tout à l'heure et j'ai vraiment pas grand, il m'a laissé une bonne impression, mais pas un souvenir impérissable. C'est vraiment une œuvre, à mon avis, qui sera à prendre dans sa globalité. Voilà, donc quand même un petit bail, on va dire.
Est-ce qu'on est toujours... J'avais éteint le micro, le truc ridicule. Est-ce qu'on est toujours dans une caractérisation, pas une caractérisation, mais plutôt un storytelling assez cinématographique? Est-ce qu'on sent vraiment la patte de George Romero, ou est-ce que ça a été un petit peu, on va dire, changé par rapport à ce que l'on connaît de ses films pour l'adaptation comics? Est-ce que ça a été un petit peu retravaillé?
Non, ça reste assez cinématographique. En même temps, bon, ça fait maintenant 10 ans que les comics sont de plus en plus cinématographiques, donc ça choque pas non plus. Mais c'est vrai que oui, ça rappelle un peu les films de George Romero, avec notamment ces petites questions sociales, avec ici, à nouveau, comme dans Land of the Dead, il s'attaque un peu à l'aristocratie, aux riches, qui ici ont quelque chose en plus. Et aussi, ce qui détonne, par contre, avec les précédentes œuvres, c'est évidemment cette histoire de zombies, de vampires, pardon, qui, par rapport aux zombies, sont aussi des morts-vivants, mais qui sont finalement plus vivants que morts.
Oh, c'est beau.
C'est magnifique.
Merci, merci, je l'ai improvisé en plus.
Oh, c'est encore mieux. Donc, tu l'as dit, un check-it, c'est ça?
Non, même j'étais parti pour un check-it plus, mais je m'ai envie de dire, pas un bail moins, parce que moi c'est péjoratif, mais un petit bail. Si vous avez acheté le premier, un petit bail.
On va maintenant passer à DC Comics avec la sortie du premier crossover pour Superman Batman, un crossover qui va se faire avec la série World's Finest, donc un crossover qui va lier deux univers différents. On continue un petit peu dans ce qui avait été fait sur le premier arc où Batman et Superman passaient sur Terre 2, mais dans le passé. Cette fois-ci, on est bien dans le présent. Ça s'appelle First Contact, ce crossover. C'est toujours scénarisé par Greg Pak et on retrouve Jay Lee au dessin qui revient pour ce deuxième arc sur Terre 2, à croire que Jay Lee va être le spécialiste des histoires de Batman-Superman avec un rapport à la Terre 2.
Et y a-t-il des Vulcains aussi?
Alors, je cherche le lien.
Ah, First Contact.
Ah.
Oui, oui. Effectivement. De Vulcain, mais on pourrait presque dénoter une architecture assez presque cardassienne, je trouve, au vaisseau de Batman, au Batwing. Assez étrange. Bref.
C'est vrai. Un design très particulier, effectivement, digne de Jelly.
Dans ce crossover, ça suit apparemment les événements de World's Finest, en tout cas du dernier épisode. Moi, je ne les lis pas, mais j'en conclus que ça devait être amorcé dans l'épisode 19. Je sais pas si tu lis toujours cette série, Benoît.
Non, j'ai du retard, mais comme toi, je me suis dit... Enfin, on voit que Power Girl a perdu le contrôle de ses pouvoirs, et ça doit être dans World's Finest, effectivement.
Et donc, Huntress a été chercher le seul allié qui pourrait l'aider, à savoir son père, mais son père de cette réalité alternative, hein, puisque je rappelle que Huntress et Power Girl viennent de Terre 2 et que l'on suit le Batman et Superman de Terre 1. C'est compliqué pour les néophytes, j'en suis conscient, mais tant pis.
En plus, rajouter à ça que Batman et Superman sont plus vieux sur Terre 2 alors que la Terre est à la même année que la nôtre.
Ouais, c'est un peu étrange, ouais. Donc, Elena, à savoir Huntress, s'est introduite dans la Batcave, a été faite prisonnière par Batman qui a envie de la croire, alors que c'est pas dans ses habitudes, et finalement on va se rendre compte que bien, elle connaît bien des choses, puisqu'elle est quand même capable de craquer le Bat-ordinateur, et ça, c'est pas n'importe qui peut le faire. Bref, ils vont essayer d'aider Power Girl, et Superman va se mêler à la partie, alors que Batman ne voulait absolument pas le prévenir, pour la simple et bonne raison que si c'est un virus qui attaque les Kryptoniens, eh bien lui aussi pourrait être infecté. Non, ce n'est pas que Batman est un gros con et qu'il veut faire les choses tout seul, c'est juste qu'il a peur pour son ami.
Mouais. Il veut pas le dire, ça.
Mouais. Ah non, enfin, je donne un côté assez... un petit peu médisant au truc, mais non, je suis très content, je trouve ça vachement bien écrit, encore une fois, c'est vachement sympa. Certes, oui, les fonds sont vides. Oui, les fonds sont vides.
Oui. C'est la marque de
fabrique. C'est parce qu'il y a de la fumée.
C'est comme les caisses de l'État, les fonds sont vides.
Non, mais c'est qu'il y a de la fumée, c'est tout. Il y a de la destruction. J'ai eu l'impression de lire certaines séquences à la Dragon Ball avec des espèces de rochers qui sont fracassés.
Les premiers plans sont tellement beaux que voilà, on fait pas trop attention au fond, en fait.
Ouais, non, mais c'est, là, les moments dans les montagnes où Power Girl traverse les rochers, j'ai vraiment eu l'impression de voir des scènes à la Dragon Ball Z, quoi. Je te mets un pinche, tu traverses trois montagnes, bon, on est habitué à tout ça.
Mais est-ce que la planète Terre va exploser dans 5 minutes?
Ben, c'est bien possible, puisque si ce n'est pas la planète Terre, qui pourrait donc exploser? On vous laisse découvrir tout ça. Franchement, une première partie vraiment, vraiment intéressante qui me donne envie d'aller lire la suite dans World's Finest. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Bruno, tu veux rajouter un petit mot peut-être sur cet épisode?
Non, bah juste moi, c'est vraiment la partie graphique qui m'a séduit. Il y a des scènes avec Power Girl que j'ai trouvé sublime, tout particulièrement l'utilisation de ces rayons qui donnent un aspect vraiment particulier au personnage. Moi, j'ai vraiment trouvé ça classe. La relation entre Batman et sa fille d'une autre terre est bien écrite. Non, vraiment, ça te met l'eau à la bouche et comme tu dis, hein, Steve, on a envie après de lire la suite.
Alors, un gros bail, en tout cas pour ma part, pour ce Batman Superman numéro 8.
Un bail aussi pour moi.
Et tu enchaînes sur la deuxième partie, Bruno, que toi tu as eu le temps de dire, c'est le World's Finest numéro 20.
Et c'est écrit par Paul Levitz, avec Greg Pak qui a aidé un petit peu, qui a participé à l'élaboration du scénario, et avec des dessins de Scott McDaniel et de Herbie Silva. Là par contre c'est beaucoup plus poussif. La narration de Paul Levitz est beaucoup plus poussive. Elle se base sur beaucoup plus de... Ouais, ça se base sur beaucoup plus de choses qui sont passées peut-être dans World's Finest, tout particulièrement dans un annual dans lequel en fait le personnage qu'on rencontre à la fin de Superman Batman de Batman Superman avait été déjà introduit. Et là j'ai vraiment eu plus de mal. Ça a cassé un petit peu le rythme et la puissance du premier numéro. C'est pas mauvais, mais c'est juste poussif. Alors j'espère que ça va remonter avec le prochain numéro de Batman Superman, parce qu'en attendant, ça fait quand même pas mal descendre le truc. Graphiquement, c'est solide, mais du coup, c'est difficile de passer après Jelly. Ouais. Pour moi, c'est vraiment juste un petit check-it. Hein, je me demande si on peut se satisfaire juste de la lecture de Batman Superman. Je sais pas comment va être écrit le prochain épisode, mais c'est un petit peu dommage. Donc voilà.
Bon, encore une fois, DC en tout cas lit deux titres, un qui vend beaucoup, un qui vend beaucoup moins, pour essayer de remonter un petit peu les ventes de ce titre. Et puis malgré tout, ça fait sens, puisqu'on, comme je l'ai dit, dans le premier arc de Batman Superman, on avait nos deux protagonistes qui voyageaient sur Terre 2. On est encore une fois avec une histoire qui a rapport à Terre 2. Donc ça fait sens, quoi. Même si on sent que c'est quand même pour essayer de redonner un petit coup de projecteur sur cette série World's Finest, qui est décidément dans le bas du classement, quand même.
Comparé à
d'autres canons. C'est pas la pire série de DC, mais en termes de vente, mais elle fait pas partie de ce qui rapporte beaucoup d'argent, en tout cas.
Et ça fait encore plus sens, vu ce qui est arrivé à Batman récemment, de rencontrer une fille qui vient d'un autre monde.
Ouais.
Oui, c'est sûr.
En
tout cas, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ces deux premières parties du crossover First Contact. On va continuer avec Aquaman numéro 28. Marty, c'est à toi.
Et donc Aquaman numéro 28, troisième épisode de la reprise de la série par Jeff Parker et Paul Pelletier. Alors bon, après des débuts qui étaient que personnellement j'ai trouvé un peu mou. Le premier numéro était pas trop mal, le deuxième était assez embêté. Alors ici l'épisode est encore dans cette veine pour la première partie. On retrouve Aquaman qui va enquêter avec dans un vaisseau avec Mera et deux ou trois de ses gardes pour se rendre compte qu'une base sous-marine a été créée par les humains. Avec un garde qui s'étonne, oh tiens, les humains ont osé construire une base en Troyaume, mais on n'a rien vu. Bon, on passera le fait que les océans, c'est quand même deux fois plus vaste que les continents, donc bien sûr que les Atlantéens peuvent pas tout voir.
Putain, les mecs, ils lisent pas la série The Wake, hein, ça se voit.
Ouais, c'est un bon crossover, tiens, Aquaman The Wake, ça pourrait être drôle.
Il y a déjà les ennemis
Ou
communs,
pas.
The Trench.
Ouais, carrément.
Non, pardon, je
Et...
t'excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui, non, 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 non. J'essaie de rebondir sur le fait qu'on a aussi eu un remake de Pacific Rim dans les deux premiers numéros, mais j'arrivais pas à lier le truc, donc fail. Je passe à la suite.
Pacific Wake.
Mais la suite va rester de ce que je vais dire va rester un peu ridicule dans mes propos puisque Aquaman voit un nageur qui s'est fait attaquer dans le précédent numéro par des requins. Il s'est coupé. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on répand du sang dans la mer, surtout quand il y a quatre requins qui se baladent juste à côté.
Regardez
Ça
Jaws,
les attire.
regardez-le et vous comprendrez.
Oui, exactement. Ben là, oui, c'est vraiment les dents de la mer parce que le pauvre plongeur se fait déchiqueter, ses quatre membres sont broyés. Là, on imagine que vu que la combinaison est détruite, sans doute que l'air s'échappe. Et Aquaman se jette pour le sauver et assène d'ailleurs à un requin un magnifique coup de poing qui nous rappelle cette superbe scène d'un des deux films de Tomb Raider, si je dis pas de bêtises, où Lara Croft se bat sous l'eau avec un requin.
C'est digne d'un Shark Attack, ça.
Oui.
Ça
Ou
trash
même
sec.
du film du Batman des années 60 où il combat un requin carrément hors de l'eau accroché à son batcoptère. Et d'ailleurs, petite devinette pour les lecteurs à laquelle je ne répondrai pas, à votre avis, dans l'univers DC, un plongeur à plusieurs centaines, voire milliers de mètres sous la mer parce qu'on est près du fond, qui se fait déchiqueter par des requins pendant plusieurs minutes, si on le sort de là, survit-il? Je vous laisse deviner. Mais après ce passage un peu, c'est un peu chiant, hein, il n'y a pas d'autre mot. L'intérêt remonte parce que d'un coup, on passe dans un autre registre puisque Aquaman se rebalade à Amnesty Bay, sa ville natale, et il se retrouve invité à la fête des anciens. Et là, d'un coup, on retombe un peu dans ce ton décalé qu'on avait chez Geoff Jones. Notamment, rappelez-vous, le tout premier épisode lors de la reprise des New 52, où c'était franchement, il y avait beaucoup de second degré. Ben là, on retrouve un peu ce petit esprit, et c'est vraiment ce côté-là qui, pour moi, rehausse le comics à mes yeux, et qui fait passer d'un check-it très moins à, je dirais, un check-it plus, du fait qu'en plus, les dessins de Paul Pelletier sont vraiment pas mal.
Bien. Donc, check it plus pour ce Aquaman 28 et on va
Non,
terminer.
enfin, oui, check-it plus, pardon, oui.
Ah bah, je sais pas, moi j'ai entendu check it plus, donc.
Oui, check-it plus, oui.
Tu peux encore modifier ta note, hein.
Non, 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 c'est moi qui m'embrouille tout seul, c'est la pression, tout ça.
On va passer à notre dernier épisode de chez DC de la semaine. C'est le One Shot Lois Lane, Bruno.
Oui, on termine en beauté avec la
Oh,
superbe Lois
c'était mon
Lane,
classe. C'était
la
mon classe,
superbe
dit
Lois
comme ça.
Lane, exactement, qui est écrite par Marguerite Bennett, donc la fameuse protégée de Scott Snyder, qui avait déjà écrit le précédent One Shot sur la Joker's Daughter.
Est-ce
Et
que ce sera aussi classe, écrit par Marguerite Bennett, que ce que l'on croit?
Alors, c'est aussi dessiné par Emmanuel Lupacchino, Megan Ettrick, IJ Guara et Diogenes Neves, donc quatre dessinateurs, mais finalement qui ont réussi quand même à garder une unité graphique qui fait que c'est pas trop choquant, peut-être sur deux trois scènes, mais au final la partie graphique est correcte. C'est pas renversant, mais c'est correct. Après, l'histoire qui est racontée est tellement anodine que voilà, les dessinateurs n'ont pas trop de possibilités de vraiment faire dans la folie, quoi. Là, on suit Lois Lane et sa sœur. On voit un petit peu Lucy, on comprend un petit peu mieux quelles sont les relations entre sa sœur et elle. Sa sœur qui est dans le pétrin puisque sa coloc en fait a été enlevée par une organisation peut-être criminelle, et donc elle vient chercher l'aide de sa journaliste de sœur pour l'aider. Donc voilà, là après on voit Lois Lane du coup enquêter pour pouvoir aider sa sœur. Et en fait, on a droit à une intrigue sur des manipulations génétiques sur des êtres vivants, sur une sorte de virus qui a été libéré dans la nature. Et c'est quand même assez plat, peu original. Si on nommait la partie sur les flashbacks, qui est intéressante puisqu'elle nous montre l'enfance de Lois Lane et la relation qu'elle avait avec sa sœur, et puis surtout on en apprend plus sur sa mère, le reste je l'ai trouvé assez poussif et pas spécialement intéressant. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu. Je sais pas, Marty, toi, ce que t'en as pensé, c'est...
Pareil que toi, et même pire, hein. Moi, ma théorie, c'est ils ont mis quatre dessinateurs là-dessus parce qu'un seul supportait pas, ils s'emmerdaient tellement que fallait de l'aide.
Oh putain, ça trash! Oh, sec là! Ouh!
Ah non, mais en cours de route, pendant que je lisais le truc, je prenais une petite note, j'ai marqué what the fuck que cette connerie au moment où on commence à découvrir les mutations et tout, c'est poussif, c'est nul. Enfin, franchement, le seul truc que j'ai trouvé un minimum intéressant, c'est le mini twist qu'on pouvait déjà deviner. Moi, je l'avais même un peu anticipé avant sur cette organisation qui apparaît dans le premier tiers de l'épisode.
Le cartel.
Mais à part ça, oui, le cartel, oui, ça c'était un peu intéressant. Mais à part ça, ouais, les flashbacks sont intéressants, mais pas très bien liés à l'histoire. Enfin, ils sont pas assez exploités.
Ouais, en gros, t'étais
Vraiment
tellement
non.
dedans qu'en cours de route, t'as oublié que t'avais ton repassage à faire, quoi. Tu t'es dit, tiens, si j'arrêtais pour aller repasser.
Ah non, mais je commençais à penser à d'autres trucs pendant ce temps, pendant le temps que je lisais ce
Tu faisais
truc.
tes comptes et tout.
Voilà, j'en perds, regardez, j'en perds ma locution tellement c'est.
Et en plus, le gros point noir par rapport à l'autre one-shot qu'on avait eu il n'y a pas très longtemps, écrit par la même scénariste, c'est qu'au moins dans l'autre, on avait une suite potentielle dans Batman Eternal. Qui nous donnait
Oui.
envie du coup de voir la suite. Alors que là, vraiment, on a The End. C'est une petite histoire dans son coin. Ça a des répercussions sur sa sœur, mais bon, sa sœur, c'est pas le personnage le plus important chez DC Comics, on va dire. Et voilà. Après, quand on lit les sollicitations de ce qui se passe vis-à-vis de Lois Lane dans les prochains numéros de Superman, il y a peut-être des liens avec ces histoires de mutants. Mais là, c'est pas clairement dit à la fin du comic, et du coup, ça nous laisse un petit peu avec un goût de déception, un gros goût de déception.
Bah franchement, je sais même pas si j'ai envie qu'il y ait des liens, parce que d'un côté oui, pour que ça sert pas à rien, mais d'un autre côté non. Et puis bon, le coup de comme par hasard, la sœur de Lois Lane se retrouve emmêlée dans ce machin, c'est poussif et ouais, vraiment, je me suis embêté quoi. Je me suis forcé à le lire parce qu'il fallait bien le chroniquer. En plus, ça dure 35 pages ce truc. Ah, mais c'est interminable.
Et ça coûte 5 euros.
Oui, voilà. Bon, par contre, on en a pour son argent parce qu'il y a beaucoup de textes. C'est
C'est un
Et là,
calvaire.
pour une fois, voilà, pour une fois, on se dit, putain, ben, je préférais qu'elle écrive à la Bendis en mettant le minimum de textes parce que heureusement que les dessins sont pas mal. Parce que sinon, enfin, pour moi, c'est impasse.
Un pass aussi pour moi.
Et oui, c'est peut-être comme ça qu'on devrait renommer la distinguée concurrence Deception. Ça
Oh!
leur irait tellement bien. Oh, ça trash encore une fois, je sais.
Oh bah.
Mais
Et
bon.
surtout, Scott Snyder, c'est sympa de sa part de sponsoriser des Jeunes, mais bon, si c'est pour nous servir des trucs comme ça, il peut arrêter.
On ne dira pas comment elle a eu le job.
Oh!
Oh, le blow job!
Ah, j'étais
Oh,
sûr que j'allais
j'allais la
la
faire,
faire,
c'est
c'était
tellement
tellement facile.
facile. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup soufflé.
Non, mais le pire,
Passons
c'est que.
à la partie indé maintenant. Scott Snyder, justement, on parlait de lui. Eh bien, c'est sa série qui revient, The Wake, après quelques petits mois d'arrêt, 2 petits mois, je crois.
Oui.
On entame la deuxième partie de la série avec le numéro 6. C'est une mini-série en 10 épisodes, enfin une maxi-série, pardon, en 10 épisodes. On a eu un premier acte, on va dire, avec ces 5 premiers épisodes. On entame l'acte 2. On avait déjà les prémices de ça qui s'annonçait à la fin du 5e épisode. Alors là, on le prend en pleine gueule. C'est-à-dire que tous les personnages de la première partie sont morts.
Bah,
Eh oui, ils sont morts.
deux
Pourquoi?
cents ans plus tard.
On est 200 ans plus tard. Donc logiquement, les humains ne vivent pas 200 ans, hein, tout simplement. Donc oui, ils sont morts. C'est couillu. Couillu. On est passé sur complètement autre chose. Et l'espèce de personne que l'on voyait de temps en temps sur une petite page passée par-ci, par-là, dans un monde complètement submergé par les eaux, avec on imaginait que c'était un New York complètement détruit, une espèce de Manhattan englouti sous les flots avec des bâtiments écroulés, etc. Eh bien, c'est cette personne-là qu'on va suivre. Elle s'appelle Lee Ward. Elle est habillée de façon très courte puisque c'est une plongeuse, tout simplement.
Oui.
Et oui, parce que quand on est une femme et qu'on est plongeuse, on a des mini-shorts. Quand on est un
Oh
homme,
oui.
on est couvert de la tête aux pieds, mais on est une femme, on a
Et
des
il est
mini-shorts.
très mini son short hein, sur quelques panels.
Ah oui, il y a.
On voit le petit galbe de la fesse là
Ah, il y a plus
qui
de fesses que
dépasse.
de shorts en hein, certains endroits. Mais bon,
Comme
ouais,
quoi,
c'est pas
le
pour me déplaire,
sexisme n'a
hein.
pas d'époque.
Exactement. Elle a en plus le meilleur ami de l'homme, en tout cas dans cette période ravagée par les eaux, c'est-à-dire un dauphin qui parle, qui nous a rappelé les meilleures heures, enfin non, il parle pas, mais en tout cas il comprend très bien ce qu'elle dit, ça nous a rappelé les meilleures heures de SeaQuest, cette série mémorable des années 90.
De Flipper.
Ou Flipper ouais. Aussi, ouais. Mais j'allais dans un contexte un peu plus SF, donc c'est pour ça que je pensais à SeaQuest, moi. Mais Flipper, ça colle avec. Et elle va se battre contre ces espèces de trench version Snyder qui s'appellent les mers, je crois.
Ouais, les mers. M-E-R.
Et on va découvrir un petit peu ce monde ravagé où les humains ont essayé de survivre tel qu'ils ont pu. On est dans les poncifs du genre, hein, de toute façon, la civilisation qui essaye de renaître après une catastrophe qui les a décimés. Tout ce qu'on a pu voir dans divers films ou diverses séries apocalyptiques, on les a là, mais c'est malgré tout très bien fait, même si c'est assez cliché, ça reste très bien fait, avec un espèce de gouverneur qui veut que le pouvoir ait éliminé les gens qui voudraient que la civilisation reprenne, enfin, des choses simples, mais efficaces. C'est super efficace, malgré tout.
Ouais, tout à fait. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver l'univers de The Wake.
Surtout les fesses.
Surtout, ouais. Le personnage principal est intéressant. Elle est un peu tête brûlée. Elle essaye de combattre l'autorité qui s'appelle The Arm, donc le bras, voilà, qui veut contrôler un petit peu tout ce que fait l'humanité et tout particulièrement les empêcher de sonder les ondes radio. Donc voilà, on ne sait pas. Il y a un petit mystère par rapport à ça. Et du coup, on découvre tout un panel de personnages, dont certains assez charismatiques. Et voilà, et assez mystérieux. Donc, il y a quelques bonnes scènes d'action. Il y a une scène avec un orc. Moi, j'aime bien les orcs, alors j'étais content. Voilà. Et voilà, il y a un bon petit twist à la fin. Donc, toujours le système Snyder de nous accrocher avec la dernière page. Ça, il sait vraiment très très bien le faire. Donc vraiment une très très bonne lecture et il me tarde de lire la suite.
Ouais, bon retour pour The Wake. Deuxième acte très 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 engageant. Le seul truc, c'est que est-ce que c'est vraiment un deuxième acte ou est-ce que, enfin, et un deuxième et dernier acte surtout, ou est-ce qu'il y aura pas un troisième acte? Parce que maintenant, je m'attends à tout. Je m'attends à ce que l'épisode d'après, tout le monde disparaisse et qu'on passe encore 500 ans dans le futur. Voilà, parce qu'on avait quand même quelques planches assez étranges dans ce premier, première partie des choses. Quoique, si on regarde cette énorme carte, on arrive à replacer certains endroits, notamment, je pense à cette espèce de désert. Quand on regarde la carte, il y a un désert qui est marqué dessus, donc voilà, il y a pas mal de choses. Hein.
Disons que le continent américain a bien changé.
Oui, je crois que c'est la surface de la planète complète
Qui
a changé.
Oui, la planète entière.
En tout cas, bon retour pour The Wake, gros bail, et pour toi, coup de cœur de la semaine, Bruno.
Ouais, gros bail.
Sera-ce ton coup de cœur, enfin ton deuxième coup de cœur de la semaine, cette sortie suivante, c'est la sortie de Tomb Raider numéro 1, Tomb Raider qui revient en comic. Je me rappelle plus la maison d'édition, en revanche.
C'est chez Dark Horse.
C'est chez Dark Horse, voilà, chez Dark Horse que ça reprend, parce que ça avait été publié pendant longtemps chez Topco. Alors que peux-tu nous dire sur ce retour de Tomb Raider, qui a fait un grand retour d'ailleurs dans les jeux vidéo, il y a de ça deux
tout
ans
à fait.
Presque.
Tout à fait. Enfin ouais, voilà, c'est ça, c'est la suite du
non,
jeu
un
vidéo
an, pardon, pas,
qui
pas
est
deux
sorti
ans,
l'année dernière. C'est écrit par Gail Simone avec des dessins de Nicolas Daniel Selma. Et alors vraiment, la première chose que je peux dire, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il faut avoir joué et fini le premier jeu pour apprécier le comics, puisqu'on retrouve exactement le cast du jeu. Tous les personnages qui étaient avec elle sur le bateau lorsqu'il y a eu le naufrage où elle a fini sur cette île de fou dans le jeu vidéo. Donc du coup, j'avais commencé le jeu, mais je l'avais pas fini et je me suis senti un petit peu perdu en lisant le comics. On va suivre Lara qui est traumatisée encore par justement les événements du jeu vidéo, tout comme l'équipage et les quelques survivants de cette aventure. Et en fait, elle va être contactée par un des survivants pour venir le rejoindre pour accomplir une certaine mission. Il lui demande de venir au plein milieu du désert, quelque chose d'assez mystérieux. Et là, elle se retrouve embrigadée dans une sorte d'attaque et de catastrophe naturelle assez extravagante. Un numéro que j'ai trouvé assez poussif, graphiquement j'ai trouvé ça très très plat, vraiment il n'y avait aucun relief, ce qui est un peu dommage pour Lara Croft, hein, comme tu
ouais,
disais
c'est clair.
Steve. après c'est peut-être la touche Gail Simone, mais voilà, donc c'est pour les fans du jeu vidéo, je pense que ça peut plaire, mais moi j'ai pas été captivé et j'irai pas voir la suite. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Marty.
Ah ben, je suis un peu moins pessimiste que toi, moins négatif que toi. Je trouvais ça bon. Je pense que ça s'adresse vraiment aux gens qui ont suivi le jeu, parce que c'est pas mauvais, mais ça m'intéresse. Finalement, j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans parce que je comprenais pas ce qui se passait. Puis en cours de route, j'ai fait une petite recherche sur Internet pour vérifier. Et oui, effectivement, c'est la suite du jeu vidéo. Donc voilà, j'ai trouvé la fin un peu what the fuck. Et par contre, les dessins, je les ai trouvés pas trop mal. Ça va, c'est pas transcendant, mais c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas la pire chose que vous aurez vu ce mois-ci dessinée à mon avis. Donc voilà, enfin, à mon avis, j'irai pas plus loin par contre, parce que ça m'intéresse pas.
Bah pour Bruno,
Je
il y a
suis pas
pire, il y a
du.
Marc Bagley. Hein.
Oh, ouais, c'est du même niveau. Enfin, ouais, à peu près pareil.
Enculé! Voilà, ça c'est
Enfin,
fait.
après, je sais pas, est-ce que la personne qui dessine, c'est un jeune dans l'industrie ou pas du tout?
Oh,
J'en sais rien, je
ça
le
me dit
connais pas.
rien, ça me dit rien, son nom après.
Voilà. Bon, si c'est un franchement, si c'est un premier travail, c'est honnête.
Non, c'est honnête, mais voilà, moi j'ai vraiment trouvé ça plat.
Bah, les premières pages sont pas trop mal en fait. C'est surtout ensuite, une fois qu'on quitte le contexte de l'île, que ça devient plus plat, je trouve, graphiquement parlant.
Voilà, donc
Enfin.
c'est pour les fans, hein. C'est quand même un titre. Bon, c'est un titre à 3,50 €, 3,50 $. Il y a tellement de bonnes choses qui sont sorties cette semaine en indé qu'on n'a pas le temps de chroniquer, mais que voilà, enfin pour moi, c'est un pass, hein, quand même.
Si ma mémoire est bonne, en tout cas, ce titre avait été annoncé comme étant ce qui ferait le lien entre le 1 et le 2 en termes de jeu, de ce reboot
D'accord,
de Tomb
d'accord.
Raider. Si ma mémoire est bonne et si je ne dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si j'ai fait une erreur, à me corriger avec une pelle, hein, parce que jamais être fessé avec une pelle.
Bah, le 2 a pas été encore complètement confirmé, je crois, mais
Oh, si.
Oh, franchement, on peut ne pas douter qu'il sortira.
Oui, il y aura. Enfin, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura une suite, mais on n'a toujours pas
Mais
vu
j'ai une
d'image.
plainte par contre. J'ai quand même une plainte. Il est où le petit vieux qui avec son plateau qu'on peut enfermer dans le frigo?
Ah oui, ça c'est un bon petit clin d'œil aux anciens jeux vidéo, effectivement. C'est la nouvelle continuité, hein, c'est un
Ouais, c'est le
reboot.
reboot, ouais.
Oui, je sais que c'est une nouvelle continuité, mais ils auraient pu garder ça quand même.
Les
Ouais,
reboots n'existent pas que dans les comics, ils existent aussi dans les jeux vidéo.
la grande
Oh, ils
maison,
sont.
avec le parcours de gymnastique à l'extérieur. Ouais, c'est vrai.
Pas bah, une maison de bourge classique, hein, pour les Anglais.
Ouais.
Donc, double passe.
Bah,
Non.
Passe-moi et
Pour
Marty, toi
moi,
aussi.
je veux dire. Je me sentirais malhonnête de dire un pass parce que bon, j'ai pas trouvé ça. Enfin, ça m'a pas intéressé, ça m'a pas parlé. Après, j'ai pas trouvé que c'était illisible non plus. Alors, c'est vraiment check it pour ceux qui aiment le jeu parce que c'est vrai que, enfin, même si c'est pas si mauvais que ça, il y a tellement d'autres bons trucs qui sortent à côté que voilà, pass si vous vous en foutez de Tomb Raider et check it si vous aimez les jeux.
On continue avec toi, Marty, qui va nous parler de quelque chose qui a rapport avec le cinéma, avec les jeux, avec les comics, avec les séries télé, avec tout ça, c'est X-Files Conspiracy. La suite, c'est Transformers.
Oui, et ici, rassurez-vous, il n'y a pas de Michael Bay, on est très loin des ambiances des films. C'est assez drôle, c'est même presque intimiste, vu
Oui.
que finalement les Long Gunmen continuent leur parcours, après avoir rencontré les Ghostbusters puis les Tortues Ninja, ils rencontrent maintenant deux Transformers, Optimus Prime et Bumblebee, qui sont, on peut le dire, les Transformers les plus connus, que ce soit via les dessins animés ou surtout les films. Et ils vont faire une enquête avec eux, c'est pour ça qu'on est très loin de ce qu'on voit d'habitude dans Transformers. Ici, il n'y a pas de bataille avec l'armée américaine ou contre les Decepticons ou ce genre de choses. C'est pas du tout spectaculaire. Contrairement aux deux précédents crossovers, cross-licence plutôt devrait-on dire, ce coup-ci, on n'a par contre pas du tout l'équipe créative du titre en temps normal qui bosse dessus. Mais ça reste sympa. Ça s'insère vraiment davantage dans l'intrigue globale que les deux numéros précédents j'ai trouvé.
Oui.
Ouais, c'est sympa à lire. Bon, si vous avez pas lu, même si vous aimez les Transformers, mais que vous avez pas lu les précédentes parties, franchement, vous allez rien comprendre, ça vous intéressera pas.
Ah, ça c'est
C'est
clair.
clairement pour, oui, c'est clairement pour ceux qui ont lu les parties précédentes. Alors toi, Bruno,
Oui,
je sais que d'habitude, c'est ton coup de cœur, donc,
Ouais, ça sera pas mon coup de cœur ce mois-ci parce que j'ai, enfin cette semaine parce que j'ai trouvé que le numéro était quand même un peu plus faible. Il fait beaucoup avancer par contre le scénario, donc ça c'est bien. On a enfin des révélations. Graphiquement, j'étais un petit peu déçu parce que c'est quand même très sombre. Ça,
Ouais.
c'est vraiment très très sombre. Ça se passe presque tout de nuit. Et c'est vrai que j'avais quand même cette envie de voir un peu les Transformers un peu plus, quitte même à aller voir un petit peu se bastonner contre du Decepticon, parce que je lis pas du tout de comics Transformers. Et là, ça aurait été l'occasion de voir une bonne baston. Là, comme tu
Pourtant, il
dis,
y a
c'est
du gros
vraiment.
crossover en ce moment, hein. Dark Cybertron.
Ah oui, ça doit être la folie. Hein. Mais là, c'était effectivement, ça reste assez intimiste. Il essaie de garder un petit côté pseudo-réaliste, on va dire.
Bah, côté X-Files,
Et
c'est
côté X-Files,
vraiment
ouais.
une. Ouais. Mais
Mais
c'est pas plus mal, et puis ça sort des sentiers battus, ça prend à contre-pied ce qu'on pensait voir.
tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise dans sa globalité, conspiratie pour le moment. Il reste deux parties pour conclure, mais pour l'instant, vraiment, je prends mon pied avec cet event. Donc
Oui,
un bail.
pareil, c'est grâce à toi. Oui, ben c'est grâce à toi, Bruno, que j'ai commencé. Je me suis fait les trois numéros il y a quelques jours pour être à jour pour aujourd'hui. Et vraiment, j'ai bien aimé. C'est super sympa à lire. Alors, petite blague, je sais pas si tu l'as vu, sur la passion à la fois de Mulder et de David Duchovny pour les jeunes femmes aux mœurs légères.
Ah, j'ai pas fait gaffe à ça, mais.
Quand il parle, ou surtout des établissements où on peut rencontrer des
Ah oui,
femmes,
mais ça, c'est en rapport
d'ailleurs pas
avec
toujours jeunes.
Californication. C'est ça?
Oui, et puis
Mais
bon,
David
on sait que
Duchovny aussi.
David Duchovny et même Mulder, on sait, enfin je sais que Mulder est un grand fan de porno, je sais pas s'il aime payer pour d'autres choses en rapport avec le sexe, mais ça m'a fait marrer.
Et en plus,
Par
ça
contre,
développe
il y
la
a quand même.
mythologie, ça, c'est très bien.
Voilà, exactement. Bon,
Pas
il y
que la
a.
mythologie, d'ailleurs, que ça développe. Oh, c'est facile.
Oh, ah oui, bah, surtout. Alors, bah, les fans de tuning, ils prennent leur pied là.
En plus.
Oh, si t'es fan de tuning. Non, bon, par contre, il y a un truc, Bruno, alors toi, je sais pas, mais quand même. Les Lone Gunmen, ils sont, par rapport à tout ce qu'ils ont vu, les fantômes, les Tortues Ninja, là, des voitures qui se transforment en robots géants extraterrestres, et ils sont encore moins surpris que d'habitude. C'est,
C'est vrai.
au bout d'un moment, quand même, faut arrêter de déconner, quoi. Autant le fantôme qui pensait être un hologramme, ça peut vaguement passer,
Ah, là c'est
autant
très
là,
gros, ouais. C'est très très gros.
oui, c'est un peu trop gros, mais bon, pour moi, ça reste un bail.
On va passer à notre dernière lecture indé pure de la semaine. C'est la sortie du numéro 1 de Revenge, une nouvelle série Image. Une série qui va choquer, qui va faire parler. Bruno, raconte-nous ça avec des mots les plus gores possibles.
D'accord. Et c'est écrit par Jonathan Ross et dessiné par Ian Churchill. Je crois que sur Facebook, Sam nous a dit que c'était son coup de cœur de la semaine. Donc vous le verrez dans son
Oui,
top et le
tout à
flop, je
fait.
pense. Alors, donc
Giving.
Revenge, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire d'un acteur, une sorte de Sylvester Stallone, un acteur qui doit avoir à peu près 70 ans, un petit peu vieux sur le tard, qui ne fait plus que des séries B, et qui en fait a envie un peu de remettre un petit peu de baume au cœur dans sa carrière, et grâce en fait à un succès, à un remake d'un de ses films des années 70 qui a marché, et il décide un peu de faire une opération pour rajeunir. Et pour ça, en fait, sa femme, qui est une petite pépée au gros sein, ex-pornstar, l'incite à aller voir un chirurgien qui fait des opérations un petit peu illégales au Mexique, qui
Ah!
a...
Tant que c'est pas au Brésil, c'est bon.
Et
Ouais, c'est ça.
vu le
Qui...
design de sa femme, elle a dû se faire opérer aussi, je pense.
Oui, je pense qu'elle a subi plusieurs opérations, où en fait, il va aller se faire changer le visage, quoi. Un peu comme dans Volte-Face. Il va se faire tirer le visage pour qu'il paraisse plus jeune. Pour que dans la suite de son film à succès, il ne soit pas remplacé par son fils. Voilà. Donc c'est son but, c'est de continuer sa carrière. Sauf que il va y avoir une trahison, il va y avoir du gore, il va y avoir de la manipulation et ce héros va se retrouver bien mal quand on va lui arracher le visage. Voilà. Il va vouloir se venger et prendre un petit peu le personnage qui joue dans les films qui s'appelle le Revenger. Là, il va le faire dans la vraie vie et voilà, il va botter des culs et donc c'est un titre qui est hyper graphique. Les dessins de Ian Churchill, moi je les trouve superbes. Enfin, moi je trouve ça excellent. Alors ça va vraiment dans le gore ultra 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 détaillé.
Ça aurait pu être du Avatar, hein. Franchement,
Ah,
j'ai feuilleté, ça aurait pu être du Avatar.
ça aurait pu
ça
être du
aurait pu être du
Avatar,
Garfenis.
mais avec un dessinateur quand même plus prestigieux, on va dire, que ce qu'on a souvent chez Avatar.
Oh ben on a du
Et
Juan Roserip hein, chez Avatar quand même.
c'est
Hein.
vrai. D'ailleurs, le style de Churchill là s'approche plus de Rip effectivement que ce qu'on a pu voir récemment, par exemple sur Les Ravageurs ou des choses comme ça où il avait fait quelques numéros. Non, voilà, c'est vraiment une parodie de films Grindhouse à notre époque avec du sang, du sexe, des
C'est
persos.
plus série X que série B là.
Et du sexe,
Ouais.
il y en a, hein. Il y en a
Oui,
beaucoup.
il y a du sexe,
Oui.
il y a des positions un petit peu coquines.
Bon, clairement, c'est véritablement un titre mature. C'est marqué sur la cover. Ne le faites pas lire à des enfants, s'il vous plaît.
Ah
S'il
non,
vous plaît.
non. C'est
C'est
vrai, il y a des MILF
vraiment.
dedans?
Non, non, il y a vraiment, enfin, il y a de la levrette, il y a de la pipe, il y a de tout, quoi. Donc attention vraiment pour les enfants, quoi.
Mais voilà, après c'est mine de rien, je trouve ça assez original et je pense pas que ça fasse, je sais pas si c'est une mini-série ou une Je me souviens plus. Mais ça peut être plaisant à lire. Et puis voilà, comme la touche graphique est vraiment très bonne, il y a même
Quand il
à
y a
la
du
fin.
QI, c'est pour Bruno.
Il y a même à la fin, moi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment très sympa. Ils ont fait carrément la page IMDB du héros, qui reprend exactement la mise en page du site internet avec tous les films sur lesquels il a bossé depuis les années 1960. Donc c'est un bon petit clin d'œil. Et donc voilà, un bon petit plaisir coupable. Je comprends que Sam ait apprécié.
En tout cas, il n'y a pas d'annonce comme quoi c'est une mini pour le moment. Enfin, moi, je
D'accord,
n'en
donc ça.
trouve pas.
D'accord.
Ça ne veut pas dire que ce sera pas le cas. Ça dépendra des ventes, hein, comme d'habitude avec Image. Mais c'est pas précisé comme quoi c'est une mini.
Alors
Ah bah.
le seul bémol, c'est que j'espère que le rythme de parution sera quand même plus rapide que ce qu'on a eu sur la précédente série de Jonathan Ross qu'il avait fait avec Brian Hitch, avec tous ses super-héros là, qui a mis presque 2 ans pour se conclure. America's God
God
Power,
Power,
ouais.
God
Voilà.
Powers, ouais, voilà, c'est ça.
Mais sinon voilà, bon c'est un petit bail, plaisir coupable. Et puis vu
Juste un petit
que
bail?
ouais un petit bail quand même, c'est pas une lecture faramineuse mais sympathique.
Parce que je sais pas, t'as quand même l'air d'avoir pris ton pied avec ça, quoi.
Bah oui parce que c'était
Bon, ça reste un
original par
bail.
rapport aux autres choses que j'ai lues cette semaine, mais
Oh, puis c'est bon, c'est 3$ en plus, hein, donc c'est pas
en
excessivement
plus c'est vrai que
cher.
c'est pas cher.
Hein. En tout
Par
cas,
contre,
le deuxième
pas.
est teasé pour le mois prochain. Enfin, en tout cas, il est sollicité pour
D'accord.
le mois prochain, à voir si ce sera bien le cas. Hein.
D'accord.
Et puis, ça m'étonne pas que ça a plu à Sam, vu que c'est quand même un petit tacle au Die Hard et compagnie avec le fils qui
Alors,
remplace le père.
correction, si c'est une mini-série, pardon.
D'accord, ok.
Ce n'est pas annoncé en tant que 4, enfin sur 4, mais la sollicitation du quatrième épisode dit mini-series conclusion. Donc,
D'accord, donc ce sera en 4, ok.
après tout, c'est pas impossible aussi que ça devienne un ongoing, c'est très
Oui.
courant chez Image.
Ou faire une deuxième saison, un truc comme ça, quoi.
Tu allais dire, Marty, excuse-moi, je t'ai coupé, hein.
Oui, je disais, pour continuer sur, ben, bien sûr que Sam ne peut que aimer, vu que ça se fout de la gueule de Die Hard où le fils doit succéder au père.
Ah oui.
Ah oui,
Ouais, ça
effectivement.
c'était un bon petit tacle, c'était pas mal.
On va terminer par du digital. Donc c'est pas de l'indé purement, puisque c'est du digital. Ça reste une partie indé, hein, quand même. C'est un produit de chez Monkey Brain Comics. Une boîte que j'aime bien malgré tout, dont je continue de suivre certains projets. C'est écrit par Cullen Bunn, c'est pour ça que j'étais voir cet épisode. C'est une petite histoire en 4 parties, en tout cas c'est teasé comme ça pour le début, ça s'appelle The Remains. Donc je l'ai dit, le scénar est de Cullen Bunn, les dessins sont de AC Zamudio et la couleur de son mari Carlos Nicolas Zamudio. Alors, c'est au prix de 99 cents, on va donner le prix tout de suite, donc c'est vraiment pas cher, vous avez une bonne vingtaine de pages de comics pour ça. Bon, déjà, en termes de prix, c'est plutôt cool. L'histoire est, on prend son temps. On sait pas trop à quelle époque on est. On imagine qu'on est début du siècle dernier, hein, dans les 1930, quelque chose comme ça. On va suivre une famille perdue au fin fond de la campagne américaine, où un mec arrive, un espèce de mec itinérant, qui a une gueule un petit peu, qui fait peur quand même, et qui se propose de venir bosser à la ferme, puisqu'il a entendu dire dans le coin que dans cette ferme on engageait des gens pour bosser, hein, chose qui se faisait beaucoup dans les années 1900, 1930. Par là, on voyageait de ferme en ferme en proposant ses services, et on restait 6 mois d'un côté, et on allait un peu plus loin, 6 mois de l'autre, etc.
Façon les souris et les hommes.
Un petit peu, voilà. Le personnage principal de l'histoire va être la fille aînée de la famille, qui voit ce mec arriver et qui se dit, il a l'air louche d'ailleurs, vu les dessins, rien que sa tête dans les dessins est très louche. Pourquoi le père l'engage? Je ne comprends pas. Avec une tête aussi louche, tu n'engages pas quelqu'un. Mais bon, le père est atteint de rhumatisme et d'arthrite aux mains, et principalement, donc pour bosser à la ferme, c'est un peu plus compliqué. Et donc ce mec-là va être engagé. Donc, on commence à sentir une ambiance assez bizarre, assez pesante. On se demande si le gars serait peut-être pas un peu pédophile. Il est décrit de la façon dont il regarde la fille dès qu'il la regarde avec un air assez vicelard. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de pas net du tout chez ce mec-là. Et puis les deux filles vont amener le chien dans la grange. Et on se demande pourquoi l'amener dans la grange. Et on comprend très vite que c'est pour chasser les rats. Les rats, il y en a un paquet. Et on va avoir des scènes assez glauques de chiens et de petites filles qui découpent des rats. Le chien qui les mord et les petites filles qui les terminent à la pelle commencent à devenir assez crades. Et bien sûr, quelque chose de pas normal va arriver. Les rats se mettent à bouger une fois morts. Voilà, on a juste assez pour
c'est
nous donner
envie. C'est un comic d'horreur, quoi.
C'est un comic d'horreur, oui, clairement, c'est un comic d'horreur. Alors, on a juste assez pour nous donner envie d'aller voir la suite. On n'en sait pas encore assez. On comprend qu'il y a des choses pas nettes. On nous dit clairement que ce mec qui a été amené, enfin qui est arrivé à la ferme, est responsable. Mais de quoi, on ne sait pas. C'est dit clairement sur la dernière page. Mais de quoi est-il responsable? Eh bien, ça, je pense qu'on le découvrira dans les 3 prochains numéros qui formeront cette histoire de The Remains. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Surtout, en plus, à 99 cents, c'est vraiment pas cher. Donnez la chance à ce petit produit digital, Monkey Brain, qui produit toujours des comics très sympathiques, je trouve. Une boîte, je le rappelle, de Chris Robertson.
Et les dessins sont agréables?
Les dessins sont pas trop mal. C'est du dessin indé. Voilà. Franchement, à 99 cents, on va pas se plaindre des dessins.
Oui, bien sûr.
À 3,99, si ça avait été à 3,99, effectivement, peut-être que j'aurais été un petit peu plus regardant, mais là, franchement, pour le prix, pour 1$, quoi, non.
C'est en 4 parties, il me semble.
C'est en 4 parties, puis voilà, contrairement à certains autres produits de chez Monkey Brain, on n'a pas 10 pages. Il y a certains comics qui sont assez courts, on a une 10-12 de pages. Là, on a carrément un épisode complet d'une 20aine de pages, quoi. Donc, vraiment, un bon premier épisode, une bonne ambiance, une sorte de huis clos finalement où on sent que ça va partir en cacahuète zombie, mais est-ce bien des zombies? Ça, l'avenir nous le dira.
Non, ce sont des vampires.
Ah, peut-être. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire pour les sorties de la semaine. Il y a plein de choses qu'on n'a pas traitées, bien évidemment, mais on n'a pas eu le temps de tout lire. Et on évite aussi de faire des émissions de 3 heures à chaque fois. Ça nous arrange. Clairement. On va passer au TPB de la semaine. Alors, dans les TPB, nous avons du Dark Horse qui nous sort le Creepy Comics Volume 3 en version TP. Donc, version souple, c'est pour 20$. Ça reprend les Creepy Comics 10 à 13 ainsi que des petites histoires du numéro 8 et 9. On va retrouver pas mal de bons artistes, notamment du Richard Corben, du John Arcudi, du Stan Sakai, du Matt Wagner, du Mike Mignola. Bref, vous en aurez pour tous les goûts. Il y a du Derek Robertson aussi, du Gilbert Hernandez. Tout ça pour 20$. Pour ceux qui aiment les histoires d'horreur, finalement, c'est toujours dans le ton.
C'est pour Bunny, ça.
Ouais. Non, mais c'est très, une très très bonne collection. Chez DC maintenant, des séries qui n'ont pas vraiment marché, qui se sont ratées très vite, eh bien, il en sort 2 en version collectée cette semaine. DCU Presents, les numéros 13 à 19 qui concluaient cette espèce d'histoire, enfin, de série anthologique avec différents personnages au gré des arcs. Cette fois-ci, ce sont une histoire de Marc Andreyko, notamment, puisqu'on va revenir sur Black Lightning et Blue Devil qui étaient en tandem, et puis on a le dernier épisode où on avait aussi des petites histoires de Starfire et Arsenal. Tout ça pour $15. Si vous avez envie de découvrir un petit peu des histoires un petit peu moins, prises de tête, on va dire, sur l'univers DC. Autre série annulée, c'est Threshold qui est collectée avec ses 8 épisodes qui forment la série complète. C'est écrit par Keith Giffen avec des dessins de Scott Collins et de Howard Porter notamment. On a aussi à l'intérieur le Green Lantern New Guardians Annual numéro 1 qui lançait la série Threshold. Tout ça pour $20.
Ouais, et il y a les backups de...
Ouais, il y a les backups de l'Arfise, ouais. Qui sont à la fin, donc c'est vraiment... un bon rapport qualité-prix pour une série assez intéressante.
Oui, puisque c'était une série d'une trentaine de pages à chaque fois. Hein,
voilà, il y a 300 épisode. Pages pour 20 dollars, donc c'est vraiment bien.
Je rappelle que l'histoire de Threshold, on avait donc deux histoires. Hein, comme tu l'as dit, il y avait les backups qui étaient sur l'Arflis qui lançaient la série principale de l'Arflis.
Mais, et qui paraissent en VF.
Mais on avait aussi l'histoire de Jediah Cole qui était un Green Lantern qui avait perdu son anneau, un Green Lantern en disgrâce, qui était mis sur cette espèce de planète prison dans laquelle il devait participer à un espèce de jeu, un espèce de Running Man, finalement.
Ouais, c'est ça. Et il y avait Blue Beetle.
Si ça, c'est pas de l'argument.
Non, mais c'était pas si mal que ça. Puis ouais, franchement, pour le prix, pour 20$, ça vaut le coup.
Oui, bien sûr.
Ouais, là, ça vaut le coup.
Passons à autre chose chez DC, quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus prestigieux aussi. C'est du Garth Ennis notamment, puisque c'est la mini-série qu'il avait écrite en 1997 qui s'appelle Unknown Soldier, une nouvelle édition pour cette mini collectée en TP avec des dessins de Killian Plunkett. C'est au prix de $15. On va passer maintenant à de l'indé avec notamment du Dynamite qui sort le premier TP de Uncanny, la série de Andy Diggle avec du Sean Phillips notamment au dessin. C'est à $20 pour les 6 premiers épisodes de cette nouvelle série chez Dynamite, une grosse série de polar. Tu l'avais lu, je crois.
Ouais, c'est vraiment très sympathique, Andy Diggle en forme avec un mélange de super-héros et de polar qui marche très bien.
Autant pour moi, j'ai annoncé Sean Phillips au dessin, c'est aux couvertures, c'est Aaron Campbell qui est au dessin.
Sur les intérieurs.
Andy Deagle toujours, c'est la sortie de Thief of Thieves volume 3 qui sort cette semaine chez Image, puisque rappelons que Thief of Thieves est une série chapeautée par Robert Kirkman et Sean Martin Brew, qui est au dessin. Robert Kirkman est là pour être un petit peu le showrunner de cette série qui passe d'artiste en artiste selon les arcs. Et c'est donc Andy Deagle qui a écrit tout cet arc, ça comprend les épisodes 14 à 19 pour $15. Et c'est fraîchement sorti puisque le 19 est sorti il n'y a pas très longtemps.
Oui, le tome 2 est sorti chez Delcourt pour la VF. Il y a le mois dernier, je crois, si je dis pas de bêtises.
Pour ceux qui ont envie de prendre de l'avance, voilà, en tout cas, vous avez la sortie de ce troisième volume. Toujours chez Image, nous avons la sortie de Invincible, où là, Delcourt a véritablement du retard. The War at Home, ça s'appelle, avec les Invincible 103 à 108. Si vraiment vous ne pouvez pas attendre et que vous avez envie de dévorer les nouveaux volumes d'Invincible, c'est au prix de $17. Enfin, nous allons terminer avec du Marvel, puisque sortie du prochain film Marvel oblige, à savoir Captain America numéro 2, la sortie de Winter Soldier avec deux couvertures en hardcover, hein, la movie cover ou une variante dessinée par je ne sais plus qui, d'ailleurs j'ai oublié, et j'en ai absolument rien à foutre d'ailleurs de qui a dessiné la variante. Ça reprend les épisodes 1 à 9 et 11 à 14 de la série 2005 de Captain America, celle écrite par Ed Brubaker, qui ramenait sur le devant de la scène le Winter Soldier, bien évidemment. C'est donc du hardcover, c'est au prix de $35, avec du Steve Epting au dessin.
Et à la couverture variante aussi.
Oui, c'est lui qui avait fait la couverture variante. Merci Bruno. Voilà, très très bon, très très bon arc, très très bons arcs, puisqu'il y en a deux d'ailleurs. C'était le retour du Winter Soldier avec une très bonne série de Ed Brubaker. Toujours chez Marvel, le Marvel Masterworks Fantastic Four TPB, donc la version souple, le volume 10, au prix de $25 avec les épisodes 94 à 104, ainsi que le Fantastic Four Lost Adventure. C'est du Stan Lee et du Jack Kirby, bien évidemment. Continuons avec The Secret Service ça sort chez Marvel, mais c'est du Icon. C'est Mark Millar et Dave Gibbons qui ont scénarisé et dessiné cette mini-série en 6 épisodes qui sort à pas très cher, puisque c'est au prix de $13.
Ouais, tout à fait, et on sait qu'il y a une adaptation prévue en film.
Ouais, avec Matthew Vaughn, voilà. Vince Vaughn, c'est pas le même. Qui doit le réaliser.
Et Mark Hamill aussi dedans.
Et Mark Hamill dedans, effectivement.
Qui jouera son propre rôle, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Deux petites choses qui vont probablement, même très certainement, sortir en français chez Panini, mais je les mentionne puisqu'ils sortent en TP cette semaine. Superior Foes of Spider-Man avec les épisodes 1 à 6 qui sortent pour le prix de $17. Une série absolument hilarante.
Ouais, à ne pas manquer.
Véritablement génial. Donc, soit vous prenez les versions TPB, soit vous attendez la version Panini, puisque clairement Panini va publier cette série.
Ça a été annoncé même. Ce sera dans le magazine Spider-Man.
Voilà. Donc, soit vous ne voulez pas attendre et vous pouvez la lire dès maintenant en version collectée, soit vous attendez un petit peu, vous pourrez la lire en français. Attention, il faut quand même un petit niveau d'anglais pour arriver à bien suivre, puisque ça parle beaucoup déjà, tout simplement.
Bah, il faut un petit niveau d'anglais et surtout un gros sens de l'humour, parce que c'est vraiment génial. Surtout. De ce côté-là, c'est un festival à chaque numéro.
Série scénarisée par Nick Spencer avec des dessins de Steve Lieber. Et on a aussi le Superior Spider-Man Team-Up TPB qui sort avec les 4 premiers épisodes du Team-Up et le Scarlet Spider numéro 20, puisqu'il y avait un petit crossover entre les deux, c'est au prix de $18. Voilà, c'est deux sorties Spider-Man qui sortiront en français, je le sais, mais pour ceux qui ne veulent pas attendre, c'est disponible cette semaine. C'est Christopher Yost qui est au dessin notamment.
Toujours.
J'étais déjà passé sur celui d'après, et c'est pour ça que j'ai confondu. Thor par Walter Simonson, le quatrième TP sort cette semaine, donc scénario et dessin de Walter Simonson. Cette grande période de Thor par ce maître qui l'a vraiment bien tenu pendant très longtemps. 364 à 369, ainsi que 371 à 374, c'est au prix de $30.
Et c'est republié pour la 74e fois.
Oui et non, parce que là, c'est quand même une collection ça, qui permet d'avoir un petit peu tout. Tout le run de Walter Simonson et surtout en bon format. Donc, ça évite d'avoir à chercher 3 ou 4 TPB différents, avoir des trous à l'intérieur. Franchement, ces éditions-là sont vraiment sympas, ces éditions, on va dire,
Compete Collection. Je me moque, mais j'en pense tout le bien.
Autre Complete Collection, c'est X-Force par Chris Kyle et Craig, Craig Kyle, pardon, et Chris Yost. Le premier TP qui sort cette semaine chez Marvel au prix de $35 avec les 13 premiers épisodes de la série de 2008 d'X-Force ainsi que le special Ain't No Dog et du matériel de X-Force Annual numéro 1. C'était le grand retour de X-Force, cette version killing machine de l'équipe qui s'occupe des menaces avant qu'elles n'éclatent. Une équipe, on va dire, préemptive. Et qui avait fait beaucoup parler un petit peu à l'époque hein, quand même puisqu'on c'était des X-Men qui tuent hein, notamment. Mm. Et si jamais vous avez envie de découvrir cette série qui vous permettra de comprendre ce qu'est le X-Force d'aujourd'hui, bah pourquoi pas foncez puisque ça reste une très bonne série.
Et en plus cette série a encore des répercussions de nos jours.
Exactement. Avec au dessin notamment Clayton Crane, hein, c'est donc de la peinture, c'est très très propre, un peu sombre bon. Mais très très propre.
Bon, il faut aimer quand même.
Il faut aimer aussi le côté années 90 puisqu'on revenait sur pas mal d'intrigues un petit peu laissées en suspens depuis les années 90, donc notamment le fameux Legacy Virus, les Purifiers, pas mal de petites choses comme ça. Enfin, pour terminer, un produit assez étrange qui vaut $50 s'appelle Amazing Spider-Man Art of Movie. C'est du hardcover, c'est un slipcase en plus, attention, c'est un joli artbook en fait. Hein,
ouais, c'est l'artbook du film, hein, Making of. Avec les travaux préparatoires et compagnie, c'est dans la même collection que pour les précédents films Avengers et compagnie.
Mais attention, c'est pour le premier et non pas
oui, ça,
celui
c'est
qui arrive. Voilà,
c'est
tout simplement.
Feinte.
Attention, ça, vous n'allez pas apprendre des choses sur le Amazing Spider-Man 2, c'est sur le Amazing Spider-Man 1. Voilà,
de toute façon, il y a assez de bande-annonces pour tout vous apprendre sur le Spider-Man 2.
Ça, ouais. C'est fait, allez hop. Oh ben laissez peser. Voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir un petit peu comment le film s'est fait, avoir des travaux préparatoires, des storyboards, des choses comme ça, des photos de tournage, ben voilà, pour $50, vous avez ce bon bouquin, en tout cas, qui a une très belle présentation et qui est un joli cadeau à offrir, hein, tout simplement. C'est tout pour les TP de la semaine et c'est tout pour nos reviews de la semaine. On espère en tout cas que ça vous aura plu. Une semaine qui était bien meilleure que la semaine précédente.
Tout à fait. Ça fait plaisir. Et encore, voilà, on n'a pas pu parler genre de Deadly Class ou Dead Body Road qui sont des incontournables, mais
voilà, oui, ou de Mighty Avengers chez
Avengers,
Marvel
ouais,
pour les.
Ouais. Bah, surtout un gros manque de temps hein, pour nous tous hein, cette semaine pour arriver à lire des trucs.
Mais voilà, mais on vous a parlé des nouveautés et puis des choses un petit peu à la mode. Donc,
Et puis des choses attendues aussi, bien évidemment.
Ouais, c'est ça.
Mais heureusement, la semaine prochaine, ce sera pire niveau sortie.
Et oui, parce que c'était la dernière semaine du mois de février, la semaine prochaine, c'est le début du mois de mars, donc on va avoir quand même pas mal de nouveautés qui vont tomber. Et on espère que ce sera aussi bon que cette semaine et non
ouais,
pas comme la semaine dernière. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous nous suivez sur Facebook, bien évidemment, mais aussi sur Twitter, @ComicCity. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Évidemment, si vous voulez réécouter les anciennes émissions, redécouvrez cette magnifique émission de la semaine dernière où on avait chroniquer que des bonnes choses, hein. le best du best, hein, ce qui je pense fera partie de nos Comic City Awards 2014.
Oh oui,
bien, vous le retrouvez sur le site ou sur iTunes évidemment ainsi que tous les anciens autres podcasts. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, lisez plein de comics et faites des bébés, c'est la saison, le printemps arrive.
Allez, à
oui,
très bientôt.
Mangez 5 fruits et légumes par jour. And you're heading up to Wreck-N-Roll.